les philosophes publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie, créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.
Bonjour pour cette nouvelle émission des philosophes publics, consacrée comme la précédente, pour ceux qui ont eu l'occasion de l'entendre, à la question de l'éthique de la sollicitude, dite éthique du cœur, selon l'expression anglaise. Aujourd'hui, nous avons pour en parler Hélène, Gabriel et Morgane.
Bonjour.
Je vais dire juste deux mots sur ce que nous avions déjà discuté lors de la première émission. Bien qu'on puisse écouter celle-ci de manière parfaitement indépendante. Mais dans la première émission, nous avions évoqué plutôt la manière dont ce courant de pensée était né dans les années 80 aux États-Unis, dans les milieux féministes, et la manière dont ça avait finalement constitué une sorte de pensée de la sollicitude comprise comme une relation à autrui, de réciprocité, dans laquelle on tentait de prendre soin de l'autre, comme le dit le terme anglais care, sans tomber du tout dans une logique de la charité, ni dans l'asymétrie, l'apostrophe bien sûr, qui consiste à donner sans recevoir en retour. Il s'agit donc d'une logique ou d'une morale de la réciprocité qui, donc, tisse un lien social. Et c'est à la question plutôt sociale de l'éthique du care que nous voudrions consacrer les propos de l'émission d'aujourd'hui. Sachant qu'une façon d'introduire ce propos pourrait être celle de savoir si l'éthique du care peut constituer un projet politique viable et en quel sens il peut présenter, bien sûr, des solutions aux problèmes du monde contemporain tel qu'il se pose, mais aussi, finalement, être peut-être détourné de son intention première. Peut-être, Gabriel, tu as une première réflexion à ce propos.
Oui, parce que l'éthique du care, on peut penser qu'elle aiderait à constituer, du moins à élaborer un projet de société alternatif, mais aussi qu'elle peut être récupérée, donc plus concrètement, tous ceux qui prennent soin et ont une disposition de sollicitude pourraient en quelque sorte être au service, comme on dit, service à la personne, au service donc de la restauration ou du maintien d'individus performants, donc selon une conception plutôt néolibérale, disons, hein, dans une logique de marché, hein, et de performance. C'est-à-dire que s'il y a des individus performants, c'est aussi parce que il y a d'autres personnes qui s'attachent aux tâches justement invisibles. Et donc, ce serait assez dommageable que ce rapport de domination avec des subalternes invisibles, que ce soit maintenu, donc que l'éthique du care soit en quelque sorte confisquée par au service de l'efficacité et du marché.
C'est en effet un de ces dangers. Alors, je rappelle quelques données pour que le souci que tu exprimes prenne tout son sens. Hein. Dans l'éthique du care, donc, on souligne l'importance de l'activité de ceux qui prennent soin de ceux qui se trouvent en situation de vulnérabilité, de telle sorte que leur situation concrète s'améliore et finalement qu'on puisse soulager des souffrances, améliorer des situations d'indigence, mais aussi finalement tisser le lien humain qui maintient à la fois celui qui aide et celui qui est aidé dans une relation sociale tout à fait positive. Et de ce point de vue-là, il va de soi qu'il semble possible que ceux qui organisent ces activités, qui finalement les instituts qui le rendent professionnel dans des cadres précis, hein, des maisons de retraite, dans des métiers d'infirmiers ou des choses de ce genre, profite de l'éthique du care, hein, pour restituer aux personnes qui sont aidées une sorte de capacité de production, de les réparer du point de vue de leur potentialité de travailleur. Et finalement, celui qui dispense les soins ou qui prend soin des autres le fait dans une intention parfaitement louable et désintéressée, peut-être qu'il peut être pris dans une logique qui le dépasse et qui sert des finalités qui sont moins morales que celles qui l'animent personnellement.
Oui, et puis du coup, ça donne à chacun une place, parce que chacun est responsable de quelque chose. Et tous ceux qui font les petits travaux invisibles, eh bien, ils sont responsables de ce qui se passe. Et du coup, enfin, ça ouvre la voie à plein de nouvelles tâches. Qui, quand on dit qu'il n'y a plus de travail, ce n'est pas vrai. En fait, comme chacun devient responsable de celui qui est au-dessus, finalement, tout le monde a son rôle à jouer dans la société. Et là, on commence à faire vraiment de la politique.
Mais alors là, il y a peut-être un problème de division du travail, de partage des tâches, hein, puisque les femmes, surtout, hein, qui s'attellent à ces tâches de soins, on a le faire et chez elles et parfois en dehors. Et, donc ce serait peut-être, ce projet de société alternative passerait peut-être par un remaniement du partage, disons, des statuts, hein, du partage...
Une chose est sûre, c'est que vous avez prononcé le mot plusieurs fois. Il y a une possibilité de restituer une visibilité à ceux qui accomplissent des tâches qui sont considérées comme peu importantes, donc peu rémunérées, dans le cadre de la collaboration sociale en général. Et donc, je pense que un des versants politiques de l'éthique du care, c'est précisément cette reconnaissance sociale, et donc finalement le rétablissement de l'importance effective de ces petites tâches qui, additionnées, produisent finalement la vie de la société.
Oui. Elles sont irremplaçables.
Irremplaçables.
Et même les personnes qui le font ne s'en rendent pas forcément compte. Et du coup, pensent même qu'elles ne sont pas importantes, qu'elles n'ont pas vraiment de rôle dans la société. Or, reconnaître leur irremplaçabilité, c'est justement leur reconnaître un rôle important dans la société, dans la politique, et finalement, du coup, les engager aussi dans la politique.
Moi, je pense que ce rôle important, quand même, qu'on peut le reconnaître dans la société, va être relié à une autre dimension, une dimension politique aussi. Comment est-ce qu'on reste citoyen quand on n'est plus dans l'agir productif? Qu'est-ce qui fait qu'on est encore un citoyen quand on ne produit plus? Donc, vous êtes du côté du soignant, mais on peut aussi se poser la question de la dimension politique que l'on va donner à celui qui a besoin de soins à un moment donné.
En effet.
Oui.
Je te coupe.
Oui. Oui, vas-y, Ronald.
Simplement pour dire que nous pouvons renvoyer l'auditeur quand même à un livre, hein, qui déplace la question de l'éthique du care de son origine morale à sa dimension politique. Il s'agit du livre de Joan Tronto, Madame Tronto, donc, qui s'intitule « Un monde vulnérable », un livre de 1993, qui est sous-titré « Pour une politique du care ». Et dans ce livre, qui est traduit à la découverte en français, hein, en 2009, dans ce livre, précisément, Madame Tronto se pose la question que tu viens d'évoquer, Morgane, de la reconnaissance possible des individus qui accomplissent ces tâches, mais surtout du type de société qu'il faudrait organiser pour que cette reconnaissance soit possible, et donc précisément de la valeur sociale que chaque individu peut continuer à incarner au-delà, par exemple, de sa valeur productive. Donc c'est une société qui n'a plus forcément un but de rentabilité telle que celle que l'on peut connaître aujourd'hui, mais qui donc fait toute sa place à d'autres dimensions. Mmh. C'est donc bien d'un choix politique qu'il s'agit.
Oui.
Là encore, à même le terrain, les travailleurs du soin sont un peu pris entre deux logiques, parce que il y a cette disposition à la sollicitude, la grande attention, tout ce qui est de l'ordre de l'immesurable, du qualitatif, et aussi des exigences d'évaluation, de résultats. Si ça tire trop de ce côté, disons que tout le sens du care disparaît. Et concrètement, ces travailleurs sociaux ne sont pas toujours face aux personnes, face à face. Il y a tout un travail de gestion, administration, et ça tire plus ou moins d'un côté et de l'autre. Et d'ailleurs, des études soulignent que finalement, chez les travailleurs du CARE, assistantes sociales, etc., ce sont petit à petit plus les hommes qui s'occupent des tâches de gestion et administrative, et plus les femmes qui ne renoncent pas à passer du temps avec les personnes dont elles prennent soin.
Alors d'ailleurs, à propos du temps, en fait, prendre soin, le CARE nécessite du temps. Et le temps, est par rapport à la production, le temps, s'il faut beaucoup de temps, c'est contre-productif. Et en fait, quand on prend soin, on prend du temps, ça va être moins productif, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, il faut laisser à chacun la possibilité de faire le mieux qu'il peut. Et il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de plus de temps que d'autres. Et c'est pareil pour quelqu'un qui va être malade, on va lui apporter du soin, pas pour le rendre aussi efficace qu'avant, pas pour le rendre plus efficace, plus productif, mais simplement pour qu'il puisse s'intégrer à la société, faire le mieux qu'il peut.
C'est pas grave, oui et non, parce que si on pense au burn-out, à l'épuisement physique, les femmes dans ces métiers du CARE, ils sont plus sujettes parce qu'elles ne veulent pas renoncer, elles veulent toujours passer autant de temps et essayer de bien faire dans ce travail de proximité. Avec les personnes vulnérables. Et elles ont toujours autant de dossiers à traiter par ailleurs et de tâches administratives, etc. Ce qui fait qu'elles sont beaucoup plus sujettes à l'épuisement physique.
C'est pour ça que dans la prise en compte du CARE et du soin, à ce moment-là, il faut démultiplier donner plus d'emplois pour justement permettre à chacun de prendre le temps dont il a besoin pour bien faire ce qu'il veut faire. Et là, il prend soin de lui et des autres.
Mais là, on voit bien qu'on est au cœur d'un problème politique et au cœur de décisions politiques. Par exemple, ce que vous venez de dire recoupe de manière très précise la question de la pénibilité. Mmh. Voilà. Donc, il faut savoir dans quelle mesure elle est reconnue. On voit bien que ça fait partie d'un véritable choix politique, que ce n'est pas quelque chose qui se mesure objectivement, mais qui renvoie à une échelle qui est décidée par ceux qui veulent effectivement accorder à certains travaux l'importance et la valeur qu'ils ont effectivement, si on les mesure à la façon dont ils produisent finalement un résultat sur le plan de la restitution aux individus dont on prend soin, de leur autonomie et de leur dignité, quelque part, sur le plan de leur existence. Donc, le choix politique ici consiste à savoir si on veut ou pas que nos institutions, nos échelles de salaire, par exemple, tiennent compte de cette dimension et valorisent ce type de travaux qui sont effectivement, pour l'instant, dévalorisés.
C'est aussi l'occasion de se rappeler, me semble-t-il, que le citoyen, c'est aussi un corps. Et c'est une notion qu'on a oubliée, ça, avec le XVIIIe siècle et avec Rousseau, notamment, dans la théorie du contrat, où le citoyen devenait simplement, c'était déjà beaucoup, mais un corps totalement abstrait par rapport à une dimension politique. Le citoyen, c'était...
Le siège d'une volonté.
Exactement, oui. Le siège d'une volonté et qui plus est d'une volonté générale. Donc la recherche aussi d'aller vers l'universel et vers quelque chose de fondamentalement abstrait. Oui.
En effet. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est politique. Bon, on le sait depuis... par exemple, que Michel Foucault a investi cette dimension, que le rapport politique investit les corps, et que donc les rapports de force politique et l'existence politique traversent concrètement nos corps. Il faut évidemment en prendre la mesure et surtout traduire cet aspect concret en termes à la fois moraux et politique, comme le fait l'éthique du CARE.
Oui, parce que effectivement, voilà où est le danger, si on pense à Foucault donc à la biopolitique, c'est-à-dire que c'est vraiment impalpable une attitude de confiance ou de suspicion. C'est-à-dire que si le travail du CARE est trop tiré vers le contrôle et la surveillance, c'est récupéré par le management et toutes les formations au management hein, qui commencent à accaparer même le vocabulaire du CARE comme savoir-être. Je sais pas si je peux parler du film Corporate hein, qui est enfin que je vous conseille en tout cas hein, sur le management.
Donc un film tout récent.
Un film tout récent, et c'est une femme d'ailleurs qui est la coupeuse de tête. Et le vocabulaire même du CARE est récupéré, évidemment, sort de bouche tout à fait calculante, on va dire, au
oui, donc
service
il est volé.
D'une rationalité
oui.
économique.
Oui. Oui, il est volé pour justement faire le contraire de voilà. ce que veut au départ faire le CARE.
La question, c'est de savoir pourquoi on veut prendre soin de l'autre. Donc prendre soin, c'est une chose bonne en soi, certainement, mais elle n'a de signification politique que si on explicite finalement la finalité, le but dans lequel on prend soin d'autrui. Que veut-on faire de cet autre que l'on veut restaurer dans sa capacité de travailler, par exemple, ou d'exister socialement ?
Oui, est-ce que c'est aussi la prévalence de l'égalité finalement que l'on recherche, hein, à arriver à faire que chacun fonctionne de la même manière, avance aussi rapidement et que la société va se normer sur un modèle comme ça de corps qui fonctionne bien?
Mais en fait, on en revient, on n'a pas parlé dans cette émission-là du mot sollicitude, mais en fait, il faut justement revenir, c'est le soin et c'est la sollicitude. Et j'avais rappelé l'étymologie de sollicitude en disant que solus, c'était de la personne tout entière, c'est l'émotion tout entière. Et en fait, on veut des individus qui soient donc des corps et des esprits, des personnes entières, qui soient investies pour la société, mais donc pour elles-mêmes, et donc pour leur propre famille, pour leur propre couple. Et c'est en étant bien dans son entier qu'on construit un monde dans lequel tout le monde peut être aussi solidaire pour chacun.
Il y a une critique qui est faite souvent à l'éthique du CARE, donc on peut quand même au moins la préciser. Ce serait que donc l'éthique du CARE, ce serait un peu comme un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire que avant de penser à soigner, réparer, etc., les dommages d'un modèle de société, bon, je dis néolibéral pour aller vite, hein, mais il faudrait peut-être penser avant à essayer de changer donc ces dysfonctionnements l'éthique du CARE serait là comme un peu comme un écran pour masquer des inégalités sociales, politiques grandissantes.
Oui, quand elle est instrumentalisée dans ce sens, je pense qu'elle est exposée à ce danger. Cependant, je crois qu'elle peut résister par la signification même de la construction de ces concepts. Je m'explique. C'est une éthique dans laquelle les individus ne peuvent pas être considérés de manière indépendante. L'éthique du CARE postule et démontre de fait que nous sommes dépendants les uns des autres. Or, précisément, on sait bien que dans la logique libérale dont tu parles, c'est plutôt l'individu qui est mis en avant comme étant la force vive hein, de la création des richesses, dans sa capacité d'entreprendre. Et précisément, il est conçu comme capable de le faire à partir d'une logique de calcul égoïste, et non pas à partir d'une logique de calcul qui intègre autrui dans son mode de fonctionnement. L'éthique du CARE montre qu'on ne peut rien faire tout seul, et que cette dépendance à autrui n'est pas un défaut, mais je dirais même la situation de départ de fait du statut de l'existence humaine. Oui. Et que dans ces conditions, je crois qu'elle est orientée d'emblée en sens inverse que la logique libérale.
Oui, il s'agit de faire des échanges humains, des rencontres, et en fait de créer donc l'heureuse rencontre, c'est quoi ? C'est le bonheur. Et si on veut construire une belle société avec une belle forme, il faut permettre à chaque individu de s'épanouir auprès de l'autre en s'épanouissant lui-même.
Oui, tu me fais penser à l'expression qu'ont trouvé les gens après la guerre, hein, quand ils construisaient le modèle social, hein, en appelant « jours heureux
hein, ». Oui, c'est ça.
Voilà, le modèle de la solidarité, de l'assistance sur le plan de la maladie ou du travail. En effet, il y a cette dimension du bonheur, mais je crois que même en deçà du bonheur, il y a l'idée qu'il faut reconnaître à sa juste valeur l'importance du travail de l'autre, pour soi et l'inverse, c'est-à-dire ne pas nier le fait que tout ce que l'individu peut s'attribuer de manière très prométhéenne, très égoïste et très autonome, est en fait toujours dépendant du travail des invisibles, de ceux qui rendent possible cette autonomie sans jamais être reconnus comme étant la condition de possibilité de son existence. Et l'éthique du care veut les faire émerger et leur donner, leur restituer la valeur qui est réellement la leur.
Oui.
Ça, c'est un projet politique. Hein, si ça ne se traduit pas par une reconnaissance de fait concrète, hein, je parle de salaire, je parle... de reconnaissance symbolique des travaux. Il est clair, par exemple, que toutes les tâches d'assistance, par exemple, aux personnes âgées, sont très mal payées et très peu reconnues, alors que finalement, elles maintiennent un lien social qui est indispensable pour qu'une société puisse avoir une signification humaine.
On n'a pas parlé, et là, je vous interroge, des articulations, des relations qu'il pourrait y avoir donc, entre cette éthique du care et l'état social. Parce que quand même, beaucoup de ces tâches, hein, de ces services à la personne, sont permis par une organisation, hein, qui a des financements... de la part de l'État, etc. Si l'éthique du care, je veux dire, comment on peut le, est-ce que l'éthique du care encourage donc un État social ou va dans le sens de son démantèlement actuel ou n'en dit rien?
Si on s'en réfère à celle qui a déplacé la question du plan éthique sur le plan politique, je parle de Madame Tronto dans l'ouvrage que je signalais tout à l'heure. Il va de soi que l'articulation est évidente et indispensable avec la démocratie. Elle dit que l'éthique du care est, en quelque sorte, l'éthique qui correspond à l'organisation démocratique, proprement dite.
Oui, oui,
et
oui.
Que sans démocratie, il n'y a pas d'éthique du care, et sans éthique du care, il n'y a pas de démocratie. Donc effectivement, c'est une organisation sociale tout à fait située, ou en tout cas non indifférente, hein, qui renvoie à des choix de solidarité et de liberté qui finalement sont incompatibles avec d'autres formes oligarchiques ou aristocratiques, on va dire, hein, inégalitaires de la société. Donc oui, la réponse est sûrement oui.
On retrouve aussi cette idée dans les éducations progressives des États-Unis, hein, où dans les années 50, avec notamment John Dewey, qui parle de la recherche nécessaire, y compris chez les enfants et à l'école, du welfare. Donc tout faire pour faire en sorte qu'on retrouve cette notion de liberté, d'autonomie et de bonheur dans les apprentissages et dans les premières expériences de travail qui sont faites à l'école.
Tu peux nous rappeler ce que c'est que le welfare?
Le welfare, c'est vraiment cette recherche du bien-être. Alors là aussi, on est encore dans un anglicisme et on est encore finalement dans quelque chose qui ne retrouve pas toute sa dimension dans la notion de bien-être, mais c'est vraiment l'idée qu'il va falloir construire par l'éducation, par la recherche de l'autonomie, de nouvelles attitudes face au travail, cette possibilité de se sentir bien.
Oui. Donc agir en fait, non pas pour être, enfin, ne pas apprendre aux jeunes à agir pour être jugés, mais davantage pour être entendu au niveau d'une parole qui fait sens et qui crée la société.
Et surtout pour être heureux. Donc la société qui en découle va être une société où on va rechercher aussi, hein, cette notion du bien-être. Et c'est pas pour rien que Dewey se retrouve au centre de toutes les recherches sur la démocratie participative.
Oui. Restituer aux gens leur capacité d'agir et aussi de parole. Ce sera encore d'autres anglicismes peut-être là, les
mais c'est intéressant qu'on en vienne là à l'éducation, parce qu'en fait, bon, nous c'est aussi au cœur de notre travail, et en fait l'enseignant doit être constamment à l'écoute des élèves, faire attention à leurs préoccupations, et c'est en étant à l'écoute que l'enseignant lui-même progresse dans ses enseignements et permet à l'élève de progresser dans sa personne. Et là encore, on fait politique,
hein. Bien sûr, c'est une dimension politique importante. À cet égard, d'ailleurs, je me souviens que dans les propos de Tronto, on trouve aussi le rappel de l'importance des choix politiques qui sont faits dans des situations particulières. Le CAIR, par exemple, a développé ces concepts à l'occasion de l'émergence de grandes maladies. Par exemple, l'assistance des gens infectés par l'HIV, le sida, a donné lieu à des grandes discussions aux États-Unis, puis en Europe aussi, sur la manière dont ils devaient être assistés, dont on pouvait prendre soin d'eux, et surtout considérés à l'intérieur d'une société. On se souvient de la manière dont certains partis extrêmes en France avaient immédiatement réagi par la volonté de créer des sidatoriums, des structures d'exclusion ont un sens
genre
politique.
À quoi ça sert, quoi.
Exactement, qui ont un sens politique évident. L'idée que le malade est celui dont il faut se séparer dans la société.
Parce qu'il n'est pas utile.
Parce qu'il n'est pas utile, parce qu'il est dangereux pour les autres, et parce qu'il est aussi stigmatisé du point de vue de sa maladie. En quelque sorte, il emporte l'entière responsabilité. Ouais. En plus, on sait bien que cela était associé à une perception sexuelle différente à l'époque, et par conséquent toute une ligne de fait politique traversait cette politique de la prise en charge des malades. C'est vrai pour les personnes âgées, c'est vrai pour les gens atteints par des maladies chroniques, c'est vrai pour d'autres dimensions éducatives, mais aussi pour des questions de genre dont l'éthique du CAIR relève et qui continue aujourd'hui à animer nos débats politiques de plus en plus. Et par conséquent, je pense que il faut une traduction autre que simplement morale, parce qu'on voit que toutes ces dimensions relèvent de choix politiques et de décisions collectives discutées dans cette logique de démocratie participative dont tu parlais à l'instant.
Oui. C'est bien aussi que tu pointes la notion de responsabilité, parce que la responsabilité, on a l'habitude de la concevoir comme individuelle. Et l'éthique du CAIR met en avant cette idée de responsabilité relationnelle entre. Parce que ce serait sinon une façon de culpabiliser les chômeurs, tous ceux qui se trouvent à un moment ou à un autre dans une situation de vulnérabilité, et leur faire endosser l'entière responsabilité.
Je prolonge ce que tu dis. Oui. Par exemple, l'idée que la société qui tend la main à ceux qui se trouvent en position de vulnérabilité en termes de chômage, de travail, fasse de ces gens des assistés, est précisément quelque chose qu'une éthique du CAIR dénoncerait comme une interprétation en sens contraire de ses intentions. Il ne s'agit pas d'assistanat, mais précisément d'une tentative de maintenir ces personnes dans le cadre d'un projet collectif dans lequel, pour l'instant, ils sont en situation de vulnérabilité, mais où ils seront plus tard, sans doute, en situation de prendre soin des autres. Ça renvoie d'ailleurs à une autre notion que l'éthique du CAIR, dans sa signification politique, a intégrée, c'est celle de capacité. C'est une notion importante parce que elle permet d'apporter des nuances finalement à cette valeur de l'individu productif qui est peut-être le danger que on peut faire courir à ce type d'approche en les instrumentalisant. Or la capacité, on le sait, c'est cette idée qui consiste à dire que les individus continuent à avoir une signification, une utilité sociale et un sens dans la mesure où ils peuvent contribuer à l'effort collectif, mais surtout prendre soin d'eux-mêmes selon des dispositifs tout à fait personnels, adaptés à leur capacité propre, à leur situation propre, qui n'est absolument pas définie a priori, mais ajustée à leur singularité. Mmh. Et prendre en compte la capacité, ça veut dire donner toujours à un individu la possibilité de se sentir utile et de ne pas se sentir exclu, parce qu'il peut, par ses moyens et à la place où il est, fonctionner positivement.
Oui, et c'est le rôle de l'enseignant, de l'éducateur, d'amener chacun au maximum de ses capacités, de manière à pouvoir faire le mieux qu'il peut dans la société.
Effectivement.
Ça me faisait penser aussi à une autre question, c'est celle du délit de solidarité, du coup, où là on en arrive vraiment à une dichotomie, une séparation, une scission que l'on retrouve entre le droit et ce que l'on pourrait attendre d'une politique du CAIR. Donc comment penser, je sais qu'il y a eu des entretiens avec Cédric Héroux sur Radio Grenouille il n'y a pas très longtemps, comment penser justement ce lien entre politique du CAIR et à la fois une société qui propose comme réponse à l'aide aux migrants un délit de solidarité.
D'ailleurs, beaucoup de travailleurs, travailleuses du Caire, enfin, ça croise une autre question, parce qu'ils sont rendus invisibles par... Enfin, ils sont mal rémunérés, c'est toute une chaîne de vulnérabilité, et ça touche aussi beaucoup des femmes immigrées, hein, qui sont en première ligne, hein, dans ce rapport de...
Alors que justement, elles veulent s'intégrer, elles veulent rendre service, elles cherchent à se rendre utiles. Et en fait, quelque part, on les empêche de se rendre utiles en voulant faire d'elles des personnes assistées ou des profiteurs. Alors que ces gens-là sont en demande de recherche de rendre service à la société.
C'est vrai, et on voit là, Tronto pointe ce dysfonctionnement, ou en tout cas cette situation... inégal, hein, qui consiste à dire que tous ceux qui accomplissent les tâches du Caire n'ont pas les moyens, finalement, d'être assistés, ou en tout cas aidés à la mesure de leurs besoins, à leur tour. En fait, ils aident sans être aidés.
C'est ça.
Et là, ça pose le problème d'une autre forme d'asymétrie qui est très difficile à résoudre, hein, sur le plan politique, hein, qui relève d'une vraie logique de la décision politique. Bon, je pense qu'il est maintenant temps de parler aussi de Radio Grenouille,
Radio
qui en
Grenouille.
Ce moment
a besoin de vous pour prendre soin d'elle, parce que les subventions baissent de plus en plus, et Radio Grenouille, enfin c'est bien dans le cadre du Caire justement, a besoin qu'on prenne soin d'elle en lui faisant des dons, et donc on vous appelle, si vous aimez Radio Grenouille, si vous aimez nous écouter, à faire des dons et à vous rendre sur le site internet de Radio Grenouille, sur lequel tout est expliqué, pour nous aider à continuer à vous inonder de nos bonnes paroles.
Même un des tout petits dons.
La Grenouille compte sur nous, on compte sur vous.
Merci à tous et à une prochaine émission des Philosophes Publics.
Au revoir.
Les Philosophes Publics est le nom d'un collectif composé de professeurs de philosophie créé en décembre 2015.
Notre objectif est de proposer une forme d'engagement politique.
En réaction aux diverses crises que traverse notre société et suite aux événements insupportables de ces derniers mois.
À notre échelle, et face aux passions tristes du ressentiment, de la peur et de la haine, nous souhaitons participer à la construction de nouvelles façons d'être citoyens, de vivre ensemble et de vivre en paix.
À l'écoute des autres, ouverts à la diversité des paroles, des points de vue et des propositions, nous voudrions nous retrouver là où la philosophie n'est pas nécessairement attendue.
Loin de l'entre-soi, nous sommes disposés à intervenir dans la rue, dans les centres sociaux, dans tous les lieux où le débat peut exister.
Nous nous retrouvons sur Radio Grenouille pour témoigner de ces échanges, les prolonger et continuer à penser ensemble.